m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Au moment où se met en place par le gouvernement un programme de développement des 145 territoires pour améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales, les notables de la province de l'Équateur dénoncent la non-représentation de la province mère du Grand Équateur dans les institutions de la République. Dans une déclaration rendue publique la semaine dernière, la notabilité de l'Équateur affirme que la ville de Mbandaka notamment connaît un grand retard dans les développements par rapport à d'autres provinces issues du démembrement du Grand Équateur. Pour eux, la confusion qui règne à l'Assemblée provinciale depuis près d'une année maintenant est entretenue au niveau de toutes les hiérarchies. Comment interprétez-vous la déclaration des notables de l'Équateur? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de commenter ces sujets sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 4500 à avoir lu et commenté ce sujet. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Charlie Louyeye et Jiré Mabondo concourent à la production et la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le réel plaisir d'accueillir dans ces studios deux notables de la province de l'Équateur. Il s'agit bien entendu de Monsieur Albert Bombito qui est avec nous. Monsieur Bombito, bonjour.
Bonjour Monsieur Lugemo, merci.
Voilà, vous êtes porte-parole de la notabilité et à votre côté, à vos côtés donc nous avons l'honorable Mayombe Patrick qui est avec nous. Monsieur Mayombe, bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Alors, vous êtes également notable de l'Équateur. En tout cas, tous les plaisirs et pour nous de vous accueillir dans ces studios. Mais vous réclamez dans votre déclaration que nous avons pu scruter des fonds à comble que la ville de Mbandaka notamment est victime de la non-représentation. C'est, vous parlez bien de la géopolitique. Alors, vous pouvez être un peu plus explicite, Monsieur Albert Bombito.
Oui, en fait, j'en profite d'abord pour saluer les auditeurs de Radio Okapi. Et remercier également Radio Okapi pour l'occasion qui nous a été donnée de venir ici dans votre studio nous exprimer sur les problèmes que nous connaissons au niveau de la province donc de l'Équateur. Le vendredi 20 mai passé, nous, notables de la province de l'Équateur, Mbandaka, avions fait une déclaration politique en rapport avec les constats malheureux que nous sollicitions des autorités, dont nous sollicitions des autorités la correction. Il s'agissait notamment de la sous-représentation ou à la marginalisation de la province dans les institutions du pays, diplomatie, magistrature, entreprise, établissement public. La confusion dans le chef du pouvoir entre l'ancienne grande province de l'Équateur et la nouvelle issue du découpage territorial, laquelle confusion encourage donc certains acteurs politiques d'autres provinces à parler et agir au nom de notre province. L'anarchie qui règne au sein de l'Assemblée provinciale où une minorité de 6 députés provinciaux a invalidé une majorité de 14 dont certains jetés en prison sans raison. Les suppléants remplaçants, ont été désignés dans des conditions irrégulières et sans rapport avec la loi. Alors face à toute cette situation de non-représentation, comment voulez-vous que la ville de Mbandaka notamment et la province de façon générale puisse connaître un bon développement? Le pacte républicain souligne que toutes les entités doivent être représentées au sein des institutions nationales d'une manière équitable. Cela permet à chaque entité de se faire entendre directement au niveau central à travers ses représentants. Mais si vous n'avez pas de représentants au niveau central, certes, nous avons des représentants au sein des assemblées délibérantes, au Sénat, à l'Assemblée nationale, Mais l'institution qui mène la politique, l'institution qui articule l'action donc
vous
de l'État,
l'action du gouvernement,
c'est l'exécutif central. Alors comment pouvons-nous ne pas être représentés à juste titre au sein, n'est-ce pas, donc de l'institution gouvernement? C'est ça, donc nous réclamons tout simplement un retour du pacte républicain, donc tout simplement notre part du gâteau dans le gouvernement
central. Donc vous réclamez votre part du gâteau?
Tout simplement, le gâteau républicain, il est pour tout le monde. Il doit être réparti équitablement. Nous, nous n'avons cessé de le dire.
Alors, dans les réseaux sociaux, nous avons vu certains politiques d'autres provinces, issus du démembrement, vous taxer de divisionnistes, parce que les discours que vous, la notabilité de l'Équateur, formulez, les discours avancés, c'est pratiquement pour diviser le peuple de l'Équateur.
Je pense que ça, c'est une façon tout simplement de ramener la réalité à la fiction. Pourquoi? Parce que la province a été divisée constitutionnellement depuis 2015. C'est la constitution de 2006 qui a consacré le démembrement, n'est-ce pas, donc, de nos différentes provinces. À l'issue de ce démembrement, la province de l'Équateur, qui était à l'époque composée de 5 districts, comprend maintenant 5 provinces distinctes, donc vraiment donc autonomes. Mmh. Donc la division a été consacrée. Parler de division aujourd'hui, comme je le disais, c'est vraiment éluder le vrai débat. Le vrai débat, c'est le pacte républicain. Ceux qui s'efforcent ou bien qui s'évertuent à tenir ce genre de propos, s'ils étaient de vrais républicains, ils devaient soutenir notre démarche. Parce que ça, c'est une démarche qui aide à sauvegarder et même à renforcer l'unité du pays, à renforcer l'intégrité du pays. Parce que ceci participe de la motivation de chaque entité. Cette motivation ne peut venir que de la représentation de ces entités au niveau du gouvernement central.
Alors, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, l'Équateur connaît quand même un grand retard. Si nous devons nous situer dans les temps, 70 ans après, et ça ne décolle pas. Est-ce que, d'une part, il n'y a pas la responsabilité aussi de la notabilité? Parce que si nous prenons le cas, par exemple, de l'Est du pays, où il y a la guerre, mais on sent la participation de la notabilité dans les développements locaux du coin. Alors pourquoi vous ne devez pas vous engager dans cette démarche?
Non, vous savez, la configuration géoéconomique de nos provinces, elle est différente. Quand vous prenez les provinces de l'Est, ce sont des provinces à vraiment très forte concentration démographique. Cela veut dire que si vous êtes à Goma, vous êtes à Rutshuru, vous êtes à Bukavu et tout ça, vous êtes même, comment dirais-je, à Uvira, vous pouvez produire à Uvira. Le centre donc d'évacuation des produits n'est pas très loin d'Uvira parce que déjà vous trouvez dans votre coin, n'est-ce pas, donc, comment dirais-je, une répartition, je dirais, démographique vraiment, comment dirais-je, motivante pour l'activité économique. Chez nous, à l'Équateur, nous sommes essentiellement une province, n'est-ce pas, donc, des rivières, des cours d'eau, de grands espaces, et vraiment, les grands espaces sont d'une certaine manière un peu sous-peuplés. Donc, les grands centres, donc, vraiment, d'évacuation des produits, ce sont les grandes villes. Mais il faut, pour que vraiment les gens puissent avoir cette motivation, avoir une créativité, par exemple, dans le domaine agricole, qui est vraiment notre activité, comment dire, naturelle, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation, d'infrastructures, de semences, et tout ça, ainsi de suite, et puis des systèmes d'évacuation. Donc ça, c'est vraiment un problème au niveau des provinces comme les nôtres. N'oubliez pas que la province de l'Équateur est une des provinces qui a le plus souffert aussi de la zaïrianisation. La zaïrianisation a détruit le tissu agricole, le tissu agro-industriel du pays et vraiment désarticulé l'ensemble donc d'activités économiques. Il y a aussi un autre facteur. La province, les provinces de l'Ouest, leur activité économique était articulée autour de l'Office national des transports, l'ONATRA. L'ONATRA aujourd'hui connaît des difficultés. D'ailleurs, même dans, comment dirais-je vraiment, la configuration de l'action de l'ONATRA aujourd'hui, c'est une configuration qui ne s'adapte pas à l'évolution économique du pays. Les Belges avaient conçu cette structure comme étant vraiment le moteur, donc de l'évacuation des produits, n'est-ce pas, donc dans toute la partie ouest. Donc on peut partir même, comment dirais-je, donc de Kisangani, en passant par Lissala, Bumba, Lissala et tout ça ainsi de suite, Mbandaka pour arriver vers Kinshasa. Toute l'activité était articulée autour de l'ONATRA. Aujourd'hui, il n'y a pas de bateau. L'ONATRA, c'est un trafic organisé, programmé et régulier. On sait quel jour arrive le bateau, on peut faire un calcul économique pour amener les produits. Et de la même manière, on sait quand le bateau de l'ONATRA arrive, on sait que, n'est-ce pas, donc l'approvisionnement donc, qu'on attend, il arrive avec le bateau de l'ONATRA. Mais aujourd'hui, le trafic est devenu un trafic qui se fait un peu, comment dirais-je, comme on dit, au petit bonheur de la chance. Et là, au petit bonheur de la chance, le calcul économique, même si vous avez la meilleure créativité du monde, en tout cas, vous ça êtes marchera. Face à des écueils qui... vraiment qui
vous bloque,
qui ne permettent pas de d'avancer, voilà, qui vous bloque.
Alors, je me tourne du côté de l'honorable Patrick Mayombe. Qu'est-ce qui se passe là au niveau de l'Assemblée provinciale? Parce qu'on sait que l'action gouvernementale locale passe par l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Mais aujourd'hui, semble-t-il que toutes les activités sont bloquées. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Merci beaucoup. Octobre 2021, lors de l'ouverture de l'Assemblée provinciale, il y a eu des émeutes en Bandaga. Il y a eu des émeutes où il y a eu mort d'homme. Avant ça, avant la session...
Il y a eu bagarre rangée entre les députés provinciaux.
Ouais. D'abord, au mois de mars, si j'ai bonne mémoire, il y a eu une motion de défiance vis-à-vis du gouverneur. Le gouverneur a profité de l'occasion, le même jour, le jour qu'il devait comparaître, il a bloqué l'Assemblée provinciale. Les députés, en vertu de leur règlement intérieur, ont vu qu'ils pouvaient délocaliser la plénière. Ils ont délocalisé la plénière et lorsqu'ils ont délocalisé la plénière, ils ont voté la motion pour démettre le gouverneur de province. Malheureusement pour eux, ou heureusement pour le gouverneur, il a
saisi... C'est une minorité qui a démis
une majorité. Pas une minorité, 14 députés sur 21 ont démis le gouverneur. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, on a estimé que le gouverneur n'avait pas été entendu. Parce que pour démettre un gouverneur, il faut qu'il se défende. Il n'avait pas eu le temps de présenter ses éléments de défense. On a annulé cette motion-là. À la rentrée, maintenant, en octobre 2021, il se fait que le gouverneur, il est passé par des subversifs qui l'ont permis de passer à la vitesse supérieure par des moyens qui n'existaient pas. Notamment, 6 députés provinciaux qui étaient restés fidèles au gouverneur se sont réunis. Ils ont constitué un bureau d'âge et ce bureau d'âge s'est permis d'invalider les 14 députés. Chose qui ne se fait jamais dans une
démocratie. Donc une minorité qui chasse la majorité.
Comprenez-moi. D'abord, parlons de la constitution d'un bureau d'âge. On ne peut mettre sur pied un bureau d'âge que lorsque tout l'ensemble du bureau de l'Assemblée est mis en cause, est mis en accusation. Ainsi donc, comme tout le monde est mis en accusation, il n'y a personne qui doit présider la réunion, la plénière. Donc, on met en place le bureau d'âge qui est constitué par le député le plus âgé et les deux jeunes. Pour le cas de la province de l'Équateur, la dame Molebo, qui avait été présentée comme la doyenne d'âge, elle vient en quatrième position par rapport aux autres députés qui sont plus âgés qu'elle. Donc elle ne pouvait pas. Et en fait, il y a aussi un autre problème, c'est que tous les députés, tous les bureaux n'étaient pas mis en cause. Il n'y avait que les présidents, les vice-présidents et les rapporteurs adjoints. Les autres étaient en place. Donc on ne pouvait pas, donc selon les lois et selon le règlement intérieur de toutes les assemblées, on ne peut pas mettre sur pied un bureau d'âge, c'est faux. Deuxièmement, ces bureaux d'âge, ces permis, ils sont 6, et quand on constitue une commission pour invalider les députés, on constitue d'abord, la première chose, c'est qu'on constitue une commission qui doit statuer, entendre les députés en fonction. Cette commission devait être composée de 3 députés, ils étaient à 6. Parce que les membres du bureau ne participent pas au comité. Donc, à la commission. Donc, trois députés se sont permis d'invalider les autres. Vous comprenez l'anomalie, mon frère? Et en invalidant les autres députés, et le défaut dans tout ça, c'est qu'un député, on ne peut pas l'invalider comme ça. Le mandat du député prend fait, il y a des conditions, il y en a 6 qui sont requises pour qu'un député soit démis de ses fonctions. Il n'y a aucune condition qui était acceptable, remplie pour que les députés soient invalidés. D'abord, ils n'ont pas été entendus. Les invalider, c'est base de quoi?
Première erreur.
Très grave. Donc, ces députés ont été invalidés. Et puis encore, parmi les députés invalidés, il y a d'autres dont les suppléants ne sont pas ceux-là qu'on a validé le mandat maintenant. Ah bon? Et ils continuent à siéger. Donc, il y a des anomalies terribles. Et la chose la plus grave, c'est que Les députés qui sont frappés d'invalidation ont saisi la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. Jusqu'aujourd'hui, les deux institutions
parce
les
plus importantes... Parce que nous avons perdu une année, pas d'activité.
Pas d'activité.
Et ça bloque. Mais dans votre déclaration, Albert Bombito, vous avez évoqué la complicité de toutes les hiérarchies. Donc vous faites allusion au silence de la Cour, au silence du gouvernement.
Mais tout à fait. Parce que vous voyez un peu, comment dire, le niveau et le nombre d'irrégularités mentionnées par l'honorable tout à l'heure. Pour que de telles irrégularités persistent vraiment dans le temps, il faut quand même des complicités. Autrement, si l'autorité était là pour arrêter, n'est-ce pas, donc cette situation et ramener les choses vraiment, comment dire, à la norme, on ne vivrait pas ce qu'on est en train de vivre là. Parce que la Cour d'appel de Mbandaka a été saisie et n'a pas réagi. La Cour de cassation a été saisie et n'a pas réagi. Le ministère des tutelles brille, n'est-ce pas, donc par son silence. Alors, comment peut-on qualifier autrement, n'est-ce pas, donc cette situation? Vous savez, j'ai le sentiment que vivre la démocratie ici en Afrique, ce n'est pas seulement un phénomène particulier à RDC. J'ai l'impression que la démocratie...
C'est pas fait pour les Africains.
Non, elle est un peu... Elle amène beaucoup de désordre quand même. Parce que les gens ne connaissent pas vraiment les limites de leurs droits et peut-être aussi, comment dire, l'étendue, comment dire aussi...
C'est pourquoi la notabilité réclame, commence d'abord par réclamer
c'est
sa part.
C'est pour ça que nous réclamons...
Je vous donne un exemple. Oui, voilà. Je vous donne un exemple. Un député national s'est permis d'invalider 3 députés de son territoire.
Le premier,
un député national, il écrit une lettre au bureau d'âge pour invalider son suppléant au motif qu'il ne contribue pas, il ne cotise pas. Alors que le monsieur détient toutes les preuves par devers lui qui prouvent exactement que chaque fois qu'ils sont payés, d'abord les députés provinciaux sont payés régulièrement et les quelques temps qu'ils sont payés, ils versent l'argent. Auprès de qui? Auprès d'une personne à qui le député national lui a de payer. Puisque lui, le secrétaire général du parti, Il a écrit au bureau d'âge, le bureau d'âge
pour invalider.
Voilà.
Ben voilà, c'est que c'est une
confusion. Le second, il a invalidé parce que le député a estimé que le groupement du chef, parce que c'était un chef coutumier copté, son groupement est sous-peuplé. Il a méconnu l'existence de ce groupement. Alors qu'il a été élu, il a eu des voix dans ce groupement-là lui-même lors des élections. Et il a écrit au bureau d'âge, le bureau d'âge a invalidé ce député.
Donc, la notabilité de l'Équateur décline toute responsabilité et impute cette responsabilité de cette confusion au niveau de la province au gouvernement central.
Non, la notabilité de l'Équateur prend ses responsabilités et demande aux autorités du gouvernement central
de corriger
cette situation.
Parce qu'on ne va pas laisser de parler.
Vous allez continuer. Vous savez, nous sommes en train de parler de la territoriale. Mais c'est très grave. C'est
alors, on va y revenir, Albert Bombito, oui, le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont quand même souhaité échanger avec vous sur cette question qui préoccupe au plus haut point, non seulement la population de l'Équateur, mais aussi, en tout cas, tous ceux qui sont épris du processus de décentralisation de ces pays. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alain Bolodjoa, vous êtes à Kinshasa, mais vous êtes également ressortissant de l'Équateur. Vous avez la parole.
Oui, bonjour Radio Okapi. Bonjour à votre invité. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Alors, vous avez écouté nos deux invités. À qui elle comble la responsabilité aujourd'hui de cette confusion qui règne au niveau de l'Équateur?
Bon, je dirais que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée, mais nous savons tous, nous connaissons tous les intentions de ceux qui sont au pouvoir. Voyez-vous, depuis plusieurs décennies, la province de l'Équateur a toujours été négligée. Il suffit seulement de voir le nombre de routes asphaltées pour vous en rendre compte. La plupart de ce que nous voyons en termes d'infrastructures sont des héritages de la colonisation. C'est-à-dire que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de grandes réalisations en tant que telles au niveau de la province. Ce qui fait que la population est condamnée à la pauvreté. Et cette pauvreté est un fertilisant à la manipulation et à la corruption. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la province de l'Équateur démembrée a un gouverneur qui n'a pas assez d'atouts. Son seul atout était le fait d'être membre du PPRD. Et nous avons étudié ces faits-là. parce que nous avons considéré que pour M. Kabila, l'Équateur devait avoir un gouverneur invertébré, justement, pour freiner l'élan de développement et justifier cela. C'est-à-dire qu'on a voulu rendre responsable la notabilité de l'Équateur en leur donnant ou en leur imposant un gouverneur qui n'a pas un background. Et la notabilité de l'Équateur que nous sommes, nous l'avons cautionné. Il n'est pas à sa première année, ça fait plusieurs années qu'il est gouverneur, et fort malheureusement, il n'a pas d'atout. Ce qui veut dire que le gouvernement est responsable parce que la mission de lancer le développement incombe au gouvernement central, bien qu'il y ait un fractionnement de compétences avec le gouvernement provincial.
Voilà, allez, on a des petits soucis avec la LIDA, allez. Alain, Albert Bombito, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ce que disait tout à l'heure Alain Bolodjoa?
Oui, je pense que, bon, je suis en grande partie d'accord avec ce qu'il a dit, mais je pense qu'on ne peut pas ramener le problème de sous-développement de la province de l'Équateur à la personne peut-être du gouverneur ou bien de Kabila. Tout ça. Non, je pense que ce n'est pas vraiment un problème de personne. C'est un problème de système. Nous avons opté pour une décentralisation. Cette décentralisation devait se mettre en place de manière progressive. Parce que la décentralisation, tout comme la démocratie, suppose d'abord une base économique, un minimum, n'est-ce pas, donc, d'organisation économique à la base. Parce que c'est tout simplement, c'est sur la base, n'est-ce pas, donc, de cette organisation économique locale, de cette indépendance, de cette autonomie qu'on peut accorder, comment dirais-je, une certaine concession de pouvoir, n'est-ce pas, donc, à ces entités-là. Mais dès lors que ces entités ne sont pas encore viabilisées, aller dans la décentralisation, tout comme un peu dans la démocratie.
Donc, précipité.
C'est précipité. Vous savez, les processus démocratiques, même en Occident, ça a été un processus historique. Ça a été un processus économique. Donc, elle a commencé, je dirais presque, avec la révolution industrielle. Quand les grandes unités, n'est-ce pas, donc, de production sont devenues suffisamment grandes, elles avaient besoin, n'est-ce pas, donc, des capacités managériales, des économistes, des ingénieurs, des médecins, des chimistes, et tout ça, ainsi de suite. Ce sont ces gens, ces cadres, qui, quand ils sont arrivés, se sont rendus compte qu'ils commençaient à avoir vraiment un pouvoir effectif. C'est comme ça qu'ils se sont organisés en syndicats. Alors, avec les mouvements révolutionnaires du 19e siècle, avec les Fourier, les Karl Marx, et tout ça, ainsi de suite, ces syndicats se sont presque mieux en partie. Donc la démocratie, elle est partie de cette classe moyenne. Ouais, mais ici chez nous, c'est une démocratie qui vient dans un champ qui est vide. Il y a une classe dirigeante qui a beaucoup de moyens. Et au milieu, il n'y a rien. Il y a un hiatus. Alors maintenant, vous trouvez une base démunie, pauvre. Il faut d'abord, comment dire, d'une certaine manière...
Donc le développement local, c'est une fiction.
C'est une fiction. Il faut qu'on en fasse une réalité avant d'aller vers la démocratie ou la décentralisation.
Voilà, je crois que la ligne s'est améliorée. Alain Bolodjoa est à nouveau en ligne. Alain? Voilà, donc on a des petits soucis, décidément. Oui, Alain, ta ligne? Voilà.
Donc, pour me résumer par rapport à Alain, je dirais que ce n'est pas, à proprement parler, un problème de personne, de Kabila, comme il a dans
le gouverneur.
Du président Kabila ou bien du gouverneur. C'est un problème de système.
Donc, aujourd'hui, les gouverneurs... fonctionne sans assemblée.
Mais les gouverneurs ne fonctionnent pas justement à cause des assemblées. Mais chez nous, à l'Équateur, aujourd'hui, l'Assemblée ne fonctionne pas plutôt à cause
du gouverneur. Donc, c'est compliqué. Voilà, je ne sais pas, honorable Mayobé, vous avez peut-être un mot à ajouter.
Oui,
c'est ça que la ligne s'améliore de l'autre côté.
Exactement, c'est ce que M. Albert Bombito vient de dire. Si ailleurs les gouverneurs ne fonctionnent pas à cause des assemblées qui leur jettent des pots de bananes, et tout simplement parce que la loi qui a institué la décentralisation, quelque part on n'a pas prévu la prise en charge des assemblées provinciales. Au point que les députés provinciaux tels qu'ils sont là, ils sont payés sur base du frais de fonctionnement des provinces. Alors qu'ils devraient avoir une ligne de crédit à eux pour leur paiement. De sorte qu'ils ne dépendent plus du gouverneur. Donc ils sont à la merci du gouverneur. Ce qui fait que comme les frais de fonctionnement n'atterrissent pas à tout moment, les gouverneurs n'ont pas les moyens de donner, de satisfaire les appétits gloutons de députés provinciaux, et il y a un conflit ouvert entre les gouverneurs de province et les députés provinciaux. Et devant cette assemblée, ces conflits, ce sont souvent les gouverneurs qui paient les prix. C'est ainsi qu'il y a des motions de défiance par-ci, par-là. Vous venez de suivre, bientôt il y a eu des élections, des nouveaux gouverneurs. Même ceux-là qui sont nommés gouverneurs, qui ont été élus gouverneurs, ils finiront par tomber dans le même piège parce qu'ils n'auront pas l'argent pour satisfaire les appétits des députés provinciaux. Mais pour le cas de Mbandaka, par exemple, le cas de Mbandaka, et comme l'Albert Bombito l'a dit, c'est le gouverneur qui a tout bloqué le fonctionnement de l'Assemblée provinciale, parce que c'est le gouverneur qui a mis sur pied cette stratégie de monter une assemblée collée à sa taille. Donc,
voilà. Alors, taillée donc, sur sa mesure. Déjà, peut-être de chercher qu'Alain puisse terminer son idée. Alain, vous êtes avec nous?
Oui, bien sûr.
Oui, vous pouvez quand même continuer et poursuivre et terminer votre idée.
Oui, oui. En fait, je disais que la responsabilité étant partagée, nous devons arriver à crever l'accès. Parce que ce qui est vrai, tout ce qui arrive aujourd'hui à la province de l'Équateur, ça fait partie d'une stratégie boutiquée au niveau de laboratoire politique. Parce que vous savez tous que l'Équateur a eu à former ses fils. Il y a des éminents professeurs, il y a des spécialistes en matière de finances, comme vous l'invitez, il y a des gens qui ont eu à faire preuve de leurs compétences dans plusieurs secteurs. Et voilà, pour nous sanctionner, on fait de M. Bobo gouverneur de la province de l'Équateur. Et vous, c'était déjà une manière de nous insulter, d'empêcher à ce que nous arrivions effectivement à éclore ou à développer notre province. Parce que dans une province telle que l'Équateur, on ne peut pas avoir un monsieur comme Bobo comme gouverneur. C'était justement une stratégie. M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il est dans la même philosophie. Nous apprenons que c'est sa famille biologique qui protège le gouvernement actuel. Même dans ce fameux programme, le programme de 100 jours, allez lire les tableaux, la province de l'Équateur n'a pas été considérée en tant que telle. Vous prenez la province de l'Équateur et la province de la Chuapa. On a prévu 50 km de route en terre, juste pour enlever le bourbier. Alors que la province de l'Équateur, c'est des territoires ont une superficie plus supérieure, moins supérieure que la province de Kinshasa. Ce qui veut dire qu'on n'a pas considéré l'Équateur pendant des années, et maintenant pour briser cette chaîne de déséquilibre, qu'il faille mettre en place des institutions stables, des gens qui ont une capacité managériale, capable de fédérer les énergies. Il faut que l'on relance les activités économiques. Et fort malheureusement, ici à Kinshasa, lorsqu'on parle de province de l'Équateur, on vous cite Diluando, Diluando n'est pas de la province de l'Équateur. Voyez-vous, devant cette réalité, je considère pour ma part, il faut que la notabilité de Quater puisse s'élever et dire non.
Voilà. Voilà pourquoi donc vous saluez la déclaration de la notabilité.
Non mais je soutiens en tout cas je soutiens cette idée allant dans le sens de mettre la province dans le
de merci
parce
beaucoup.
Parce que ce n'est pas seulement la province de l'Équateur. Dès lors que la province de l'Équateur n'arrivera pas à apporter de manière substantielle les ressources nécessaires pour développer les pays, et bien ça va tourner parce que la province de l'Équateur a elle seule à plus de 94,8% de pauvres. Mmh. Voilà. Plus de 9 ménages sur 10 sont pauvres. Il faut que nous changions cette...
Merci beaucoup Alain. Merci Alain de nous avoir apporté cet éclairage sur cette question. Alors on va prendre Maître Edmond qui est en Mbandaka sur place. Maître Edmond.
Oui, bonjour Monsieur Gilles. Je salue Monsieur Albert Bombito ainsi que l'honorable Mayombe Patrick.
Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre contribution à cet échange après avoir écouté les invités et aussi votre prédécesseur Alain Bolodjoa?
Bon, Monsieur Gilles, merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne chose pour avoir songé à nous, l'Équateur qui a toujours été oublié.
Ouais, mais Radio Capi n'a jamais oublié l'Équateur. Radio
Capi, on a toujours été oublié. Oui, oui. Oui. Bon, mais déjà, je pense que j'ai suivi les invités. À mon avis, je pense que d'une part, je leur donne raison, donc les notabilités. D'autre part, je pense que la notabilité n'a pas raison. Je voudrais vous dire que si vous constatez qu'il y a des tiraillements, il y a des déclarations de notabilité, parce qu'entre eux, les notables, ils ne s'attendent pas. Il y a d'abord un problème de leadership entre les notables. Et ce sont les notables qui résident à Kinshasa. Vous allez voir que tout ce qui
reçoit,
la promesse ne marche pas. La promesse ne marche pas.
Dans les réseaux sociaux, les gens ne reconnaissent pas cette notabilité.
Oui, c'est ce que je dis, que la notabilité qui habite à Kinshasa. Et des fois, si vous posez des questions à ces notables, est-ce que vous avez même des petites maisonnettes à Mandaka ou chez vous au village, ils n'en ont même pas. Voilà. Ça veut dire que le problème qui se pose à l'Équateur, sur le plan politique, réellement, il faut qu'on se le dise que c'est une province oubliée. Mmh. Allez-y comprendre que nous avons plusieurs ministres, mais la province de l'Équateur, l'Équateur de Mambré n'a pas un ministre au niveau national. Mmh. Donc nous sommes oubliés et c'est comme les invités l'ont dit, c'est dans tout le plan de tous les secteurs. Mmh. Mais en ce qui concerne la situation de l'Assemblée provinciale, moi je le maîtrise bien parce que j'ai plusieurs fois publié des articles sur les Gavons. Mmh. Cette situation est causée par les députés eux-mêmes. Les députés qui sont à la base de cette situation. Le gouverneur, oui, il a été déçu, réhabilité, et nous nous prosternons devant la décision de la Cour constitutionnelle. Mais il y a eu des comités au sein de l'Assemblée, ou des bureaux, ou des camps au sein de l'Assemblée, et ces 7 députés ont été invités, les bureaux d'âge et les bureaux définitifs, au niveau du ministère de l'Intérieur, parce que le président de la République avait demandé ça. Et quand ils sont arrivés là-bas, on a donné l'ordre à ces députés de venir examiner la pétition. Mmh. Et en examinant la pétition, et ils ont signé, tous les belligérants, excusez-moi le terme, ont signé le procès verbal devant les VPM. Mmh. Et quand ils sont arrivés ici, le bureau d'âge n'avait pas réussi la mission d'invalider les députés. Parce que là, il faut qu'on se le dise. La mission qui a été, parce que même les notables qui parlent, les notables, il y avait des sénateurs, des députés nationaux, qui avaient signé ces protocoles d'accord où ils avaient ils se sont convenus de pouvoir donner le pouvoir au bureau d'âge de venir examiner la pétition. Mmh. Malheureusement, le bureau d'âge est parti outre la pétition. C'est ce que nous sommes en train de décrire. C'est-à-dire que sur l'invalidation des députés, voilà. En tout cas, c'est irrégulier parce que le compromis qui a été trouvé à Kinshasa n'avait pas donné pouvoir au bureau d'âge de le faire.
Voilà. Donc si je comprends bien, Maître Edmond, pour vous, les retards accusés dans le développement de la province de l'Équateur, vous responsabilisez l'État, le gouvernement central, mais pour la confusion qui règne au niveau de l'Assemblée provinciale, ce sont des députés eux-mêmes qui en sont responsables. Merci beaucoup, Maître Edmond, d'avoir appelé. Alors, on va prendre Simon Tiloulou. Simon, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue. À parole aux auditeurs. Voilà. Simon n'est pas en ligne. Ok, alors, on revient dans ce studio. Réaction après avoir écouté Yves Agor Alain Bolodja qui avait poursuivi ses propos et Maître Edmond.
Moi, je voudrais d'abord dire une chose que j'entends souvent ici. Oui, je dis une chose que j'entends souvent ici et qui, quelque part, m'indigne un peu quand même. Tout le temps, j'entends des gens dire « Ah oui, ces gens-là qui sont à Kinshasa, ils parlent, mais ils n'ont même pas de maison ici en Mbandaka. » Mais moi, ma mission, moi, Bombito, par exemple, c'est vrai, peut-être que j'ai occupé des fonctions importantes dans le pays, mais mon rôle n'est pas de construire des maisons en Mbandaka ou bien d'aller créer des activités en Mbandaka. D'abord, la fonction même ministérielle m'interdit parfois, comment dirais-je donc, de me lancer dans un certain type d'activité. L'activité de relance de l'économie d'un pays, c'est l'activité de l'État. C'est à l'État, n'est-ce pas, donc, de mettre en place des mécanismes, des structures, des instruments qui permettent, n'est-ce pas, donc, d'attirer les investisseurs. La vie, donc, qui se vit, n'est-ce pas, donc, dans une nation, se vit dans une division du travail. Monsieur Bombito, Monsieur Mayombe, vous êtes député, vous êtes, je sais pas moi, ministre, ou bien vous êtes haut fonctionnaire. Faites votre travail comme il faut, n'est-ce pas, donc, dans votre ministère, ou bien, n'est-ce pas, donc, dans votre assemblée. L'État doit faire en sorte que l'activité à l'intérieur du pays puisse connaître, comment dirais-je, une mouvance, ou même un mouvement. Aujourd'hui, parce que l'argent est devenu quelque chose que les gens acquièrent par des mécanismes illicites, ils vont en province, ils construisent des maisons, ils promeuvent des activités, tout ça ainsi de suite avec de l'argent. En fait, d'une certaine manière,
qu'on est en train la notabilité n'a même pas
qu'on est en train de blanchir. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, je crois qu'il y a un manque d'éthique dans notre société aujourd'hui. On ne peut pas m'obliger, moi, donc dès que je deviens ministre, de faire tout pour avoir de l'argent pour aller construire une maison en Mbandaka. Moi, j'ai commencé à construire une maison en Mbandaka. Mais j'ai été victime d'un détournement de fonds dans le cadre de la construction de cette maison. Certaines personnes qui sont en Mbandaka le savent très bien. Mais j'ai été obligé de construire cette maison parce qu'à l'époque, j'ai reçu un ordre, je dirais presque donc, de l'autorité suprême du pays qui me disait, toi tu es né ici, je voudrais que tu aies une maison ici en Bandaga comme les autres. Mais moi je suis installé ici à Kinshasa, j'ai vu ici à Kinshasa, j'ai fait des revendications pour la province de
l'Équateur dans le cadre du pacte républicain. À l'époque de la Deuxième République, la province a été quand même bien servie.
Ah oui, le cadre, c'est vrai, mais je le dis ceci, il faut faire un distinguo entre le fait d'avoir des cadres au niveau du gouvernement et l'action de promotion économique, de relance économique de la province qui fait partie des activités du gouvernement. Ça ne fait pas partie des activités d'un ancien ministre ou bien d'un député. Je vois aujourd'hui des députés à travers les territoires nationaux en train de construire des routes, d'arranger des tronçons. Ce n'est pas le travail d'un député. Dans un pays normal, ça ne peut pas se faire. On peut leur demander, n'est-ce pas, donc des comptes. Il faut que nous rentrions vraiment dans l'éthique républicaine où chacun doit faire son travail correctement. L'État, le gouvernement doit faire son travail. Les députés doivent faire leur travail, n'est-ce pas, donc de contrôle, donc de comment dire, de l'action gouvernementale, de comment dire, donc de promulgation, pas de promulgation, mais de confection des lois et tout ça ainsi de suite. Mais voir des députés en train de distribuer des sacs de riz, des sacs de, je sais pas moi, donc des boîtes de conserve. Vous avez vu dans un pays africain, au Ghana, un député est rentré dans son terroir avec un camion plein de sacs de riz. Au moment où on a amorcé la descente des sacs, les gens ont protesté, ils ont dit plus jamais ça, remettez ces sacs-là. Rentrez avec vos sacs, d'où vous venez avec. Dites au gouvernement de créer des activités ici pour que nous-mêmes nous puissions
vivre. Un cadre de vie normal.
Un cadre de vie normal.
Voilà, alors on va passer à une vous voulez ajouter quelque chose?
Je voudrais réagir à propos de
94% de la population de Bandaka est pauvre.
Oui, elle vit dans la pauvreté, la plus totale. Mon frère Bombito vient de le dire, nous n'avons pas de... Avec la zaïrénisation qui a détruit tous les tissus économiques de la province de l'Équateur, parce que la province de l'Équateur, c'est une province pratiquement à vocation agricole, et aujourd'hui, si ces industries et ces plantations pouvaient encore fonctionner, je suis sûr que les propriétaires devraient passer à l'époque à le niveau de transformation. Aujourd'hui, le pays, l'Équateur serait vraiment développé. Il en est de même de l'ex-province orientale. Mais nous voici, nous pataugeons toujours. Il n'y a plus de route. Et même là où il y avait des vieilles industries, des vieilles plantations, vous ne pouvez même pas savoir qu'il y a eu de grandes agglomérations.
Vous pensez, honorable Patrick Bayombe, dans le prochain gouvernement, parce que c'est depuis un secret, peut-être dans les jours à venir, dans les jours, dans les heures, dans les mois à venir, on va constituer un autre gouvernement. Vous pensez qu'il y a nécessité de voir des fils de la province de l'Équateur dans ce gouvernement pour permettre à ce qu'on amorce le développement?
Non, ce n'est pas ça. Nous ne disons pas que si on met aujourd'hui un membre de... un ressortissant de l'Équateur au gouvernement et d'office de l'Équateur d'école. Mais nous pensons que le gouvernement étant la structure, l'institution nationale qui est habilitée à parler du développement d'un pays, il faut qu'un des nôtres soit là. Il y a même une expression chez nous à l'Équateur, dans la cuvette centrale, qui a institué ce qu'on appelle le saco. Le sacre, ça veut dire que quand un jeune salue un vieil, il lui dit le sacre. Le vieil doit lui transmettre la philosophie qu'il a retenue dans sa vie. Il y a un vieil qui dit Oyo mei azala. Le tien doit être là. Il faut qu'il y ait quelqu'un de tien là-bas. Parce que s'il y a partage, il faut que quelqu'un de tien soit là.
Si on tombe à la Mongala ou encore en Nord-Ubangi, mais qu'on n'oublie pas la province
qu'on n'oublie pas la province de l'Équateur. Qu'on n'oublie pas la province. Nous ne sommes pas contre que les autres frères qui étaient avec nous hier dans la grande province de l'Équateur puissent venir à l'Équateur investir, faire quoi que ce soit. Nous ne refusons pas. Nous les reconnaissons tous comme des frères, mais tout ce que nous voulons, c'est qu'un fils originaire de l'Équateur soit aussi parmi ceux-là qu'on nomme dans le gouvernement, dans la haute magistrature, dans la diplomatie, dans les entreprises publiques et dans les établissements publics.
Alors, on va encore aller de l'autre côté. J'espère bien que la ligne ne va pas nous trahir. Kalo Kalonji, vous êtes avec nous?
Bonjour, messager, bonjour aux auditeurs de la radio Kapi.
Voilà, vous avez la parole, Kalo. Je crois que vous devez changer la position parce qu'il y a un retour, un très mauvais retour à l'antenne.
Oui, d'accord. Je disais que c'est quand j'ai entendu les revendications des notables de l'Équateur, je me suis dit qu'il y a une confusion. quand ils réclament de voir l'air dans le gouvernement, moi je me dis que c'est faux. Parce que nous autres, je pense par exemple le Kassa Oriental, d'abord je commence par vous dire que nous avons le président et nous avons le ministre. Et que nos amis ne pensent pas qu'avoir quelqu'un de votre coin dans un gouvernement, c'est synonyme de développement.
Voilà. Ils ont dit, mais c'est vrai, la géopolitique est consacrée, la division, elle est consacrée dans la Constitution, oui. Mais il va falloir que la part du gâteau, le gâteau républicain, soit partagé par tout le monde.
Je suis étonné quand je n'ai pas vu l'air dans le gouvernement, et bien sûr, mais c'est sûr, mais je me rends compte que c'est, il y a des gens du cran équateur qui se retrouvent, bien sûr, qu'au niveau des Bandaka, ils n'ont pas quelqu'un. Là, ce n'est pas un problème. Mais le grand problème aussi, moi, j'aimerais parler sur les conflits qui existent entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Mais c'est sûr, il faut voir que c'est un cas général de notre pays. Après démembrement, toutes les provinces ont connu les mêmes problèmes.
Mais la situation de Mbandaka, disons, une année après, finalement, on ne trouve pas la solution. C'est grave quand même.
Mais c'est sûr, vous, quand vous parlez d'une année après, mais il faut voir aussi chez nous, ici, au Kassai Oriental, je pense que 3 ans ou 4 ans après, moi je ne vois rien. Mais c'est sûr, il faut se dire la vérité. Ici, le problème de développement, c'est un processus. On ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça dans une année, croire que le gouvernement va faire tout. Moi, je me dis non. Le grand problème ici, c'est d'abord les effectifs qui étaient placés. Moi, je vous dis, il y a eu une incompétence totale notoire de la part de nos exécutifs, je vous assure. Quand vous placez quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, il faut voir aussi les potentielles ressources naturelles de la province. Parce qu'ici, le développement doit venir d'abord de la province elle-même. Et puis au niveau du gouvernement central, mais au niveau de la province, s'il n'y a pas de recettes, s'il n'y a pas de ressources viables, moi je me dis, on ne peut pas s'entendre à un développement d'une province. Ici, le gouvernement central doit appuyer et les originaires, les ressources à l'intérieur doivent aussi pousser aussi les provinces à booster. Merci. Dans le développement. Moi je me dis, bien sûr, on doit aussi songer que les LR aussi se retrouvent dans le gouvernement. C'est ça ma contribution, mes ingénieurs.
Merci beaucoup, Kalo, d'avoir appelé. Mais je crois que d'accord. Tout à l'heure, quand Kalo parlait, je voyais mes invités sourire. Alors, réaction, Albert.
Non, la réaction, elle est toujours la même. Hein. Donc, nous, le problème que nous posons, c'est un problème de pacte républicain. Je comprends ce que monsieur vient de dire tout à l'heure. Je pense que quand nous réclamons la présence donc de notre province au sein des institutions nationales, c'est parce que nous voulons que au sein de ces institutions, quand on décide des problèmes de développement, on décide des problèmes d'affectation de ressources, on décide des problèmes de réhabilitation
mais les problèmes de tout le monde général,
on décide des problèmes, comment dirais-je donc, de création d'activités au niveau des provinces, on décide par exemple la question donc des conflits entre les exécutifs provinciaux, n'est-ce pas, donc les assemblées provinciales. Que nous soyons là aussi pour faire entendre notre voix. C'est ça, donc, la question. La question n'est pas, donc...
Mais pourquoi une année après, la notabilité se réveille? Mais c'est comme si vous étiez dans un sommeil coupable.
Également. On n'était pas dans un sommeil. C'est tout simplement... La notabilité se réveille aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu récidive. Il y a eu d'abord un premier gouvernement au sein duquel nous avons été... Notre présence était vraiment marginale. Ensuite, il y a un deuxième gouvernement, le gouvernement actuel donc du Premier ministre Samba, donc qui arrive, et c'est la même chose. Nous sommes marginalisés de la même façon. C'est pour ça que nous revenons pour dire que non.
Mais est-ce que vous pensez que votre voix, ou encore le plaidoyer, sera compris par les hiérarchies?
Mais je pense que en politique, surtout que nous sommes dans un système entre guillemets démocratique aujourd'hui, je crois que
pourquoi entre guillemets
je dis entre guillemets parce que la démocratie telle qu'elle marche dans nos pays aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je dis vraiment entre guillemets, et je l'ai souligné tout à l'heure que vraiment le système démocratique dans nos pays a plutôt amené un certain désordre. Donc c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets. Mais dans ce système, pour se faire entendre, pour avoir, comment dirais-je, pour obtenir quelque chose, il faut se faire entendre. C'est tout simplement ça.
Est-ce que vous avez déjà... Je sais pas.
S'il vous plaît, je voudrais un peu réagir sur ce que le second
auditeur
avait posé comme problème. Il a parlé d'une réunion qui s'est tenue au niveau du ministère de l'Intérieur.
La notabilité était là.
La notabilité n'était pas là, mais il y a eu des députés, il y a eu des sénateurs qui étaient là. En fait, ces députés et sénateurs, ce sont eux qui sont concernés et qui sont aussi à la base du désordre qui se passe à l'Équateur. En réalité, ce sont des députés qui ont été élus doublement, élus au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau de
qui ont laissé la place
aux suppléants. Et ils ont signé des contrats, je ne sais pas, un deal avec leurs suppléants. Et semble-t-il, les suppléants n'ont pas respecté les deals. Et c'est pourquoi il fallait punir les suppléants. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à marcher sur la loi et à faire ce qu'ils ont fait. Je vous ai dit ici qu'on ne peut pas mettre sur pied un bureau d'âge tant que tous les membres du bureau de l'Assemblée ne sont pas mis en accusation. Pour les cas d'espèce de l'Équateur, on ne pouvait donc pas parler de bureau d'âge. Mmh. Et imaginez-vous, ils sont allés décrocher auprès du ministre de l'Intérieur une décision sur laquelle c'est le bureau d'âge qui doit continuer. Le bureau d'âge doit continuer sur base de quoi? Alors que la dame là n'était pas la plus âgée de l'Assemblée. Elle n'avait pas l'âge requis pour présider au destinée de l'Assemblée provinciale.
Est-ce que vous avez déjà déposé un mémo à des termes clairs auprès du gouvernement?
Non, le problème qui s'est posé ici, mon frère, c'est que les députés provinciaux qui ont été invalidés et le bureau qui a été déchu n'avaient pas croisé les bras. Le président du bureau a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rejeté et s'est déclarée incompétente. Les députés eux-mêmes ont formé une plainte, un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour de cassation. Si vous, on reproche aujourd'hui la notabilité de l'Équateur n'avoir pas réagi, c'est parce que nous attendions, nous avons confiance, nous avons foi à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation. Et jusqu'aussi aujourd'hui, elle ne se prononce pas. Vous vous rendez compte? Pour un problème aussi sérieux comme ça.
Pour vous, sûrement c'est un silence coupable.
C'est un silence coupable parce que le ministre d'abord de l'Intérieur, lui qui est juriste de formation, un avocat, il ne pouvait pas laisser passer une pareille ineptie. Comment se fait-il qu'une femme, quelqu'un qui n'avait pas rempli les conditions de mettre ici puis un bureau d'âge, on pouvait constituer un bureau d'âge à cet effet? On ne pouvait pas le faire. Et déjà, le bureau d'âge était déjà rejeté. Donc, on ne pouvait que rentrer avec le bureau définitif présidé par M. Bouka, qui est en fonction jusqu'à aujourd'hui, que tout le monde le connaît, parce qu'il n'avait pas été démis. Vous imaginez, on invite des gens par de leurs propres suppléants. Est-ce que ça peut se faire? Et je vous ai parlé d'un député national qui a invalidé 3 députés de son territoire. Et le troisième député, il a invalidé parce qu'on a dit qu'il était absent.
Donc la situation, elle est presque confuse.
Il était absent alors que les députés étaient malades, il a des documents. L'autorisation de sortie signée par les présidents de
l'Assemblée. Ma question, je reviens encore sur ma question. Est-ce que le cahier des charges est bel et bien présenté auprès des autorités?
Ah, mais puisque quand nous avons fait notre revendication, quand nous avons fait notre déclaration, nous avons pris soin donc d'en faire parvenir quand même quelques exemplaires aux responsables du pays. Et puis quand tout ce que nous faisons ici, ces conférences de presse, ces participations donc à des émissions de radio et tout ça, c'est pour sensibiliser, hein, n'est-ce pas, donc l'ensemble des autorités du pays pour qu'on puisse trouver une solution équitable, hein, à cette situation. Une assemblée provinciale qui a un certain ordonnancement technique, juridique et tout ça ainsi de suite, et qui fonctionne dans une pléthore d'irrégularités comme celle que évoque mon collègue ici. Donc vous pouvez voir vraiment que non. Alors face à elle, vous avez comme ça des institutions qui restent muettes, qui ne réagissent pas et tout ça. Bon, écoutez, ça pose vraiment des questions. C'est comme ça que nous parlons de complicité, donc les différentes hiérarchies, parce que vraiment, non, la situation est intenable. Il faut vraiment que très rapidement, en tout cas, on puisse régler la situation au niveau, n'est-ce pas, donc, de cette assemblée provinciale.
Gilles, nous supposons que s'il s'agissait d'une autre province, l'autorité, la haute hiérarchie devrait déjà réagir et une solution serait déjà trouvée. Parce qu'on ne peut pas laisser toute une province vivre patauger dans l'anarchie comme celle de l'Équateur. Où le gouverneur lui-même, il n'a aucune vision. Le gouverneur de province n'a aucune vision, aucune visibilité dans ce qu'il fait. Il n'a aucune idée de ce qu'il représente comme fonction, ce qu'il peut faire pour le développement de sa province. Et l'assemblée provinciale est désarticulée par les mêmes gouverneurs de province.
Mais cette confusion-là, quel sera le danger? Que peut-on craindre dans cette confusion?
Ah, ça c'est une très bonne question. Voilà, je voudrais vraiment vous dire ceci, monsieur Lugemo. la province de l'Équateur, comme vous la voyez là, la province de l'Équateur, elle a été, donc, elle a participé activement à la naissance, n'est-ce pas, donc, de ce pays, grâce à ses richesses forestières et grâce aussi à ses richesses agricoles. Aujourd'hui,
vraiment, parce que l'histoire nous renseigne, oui, le caoutchouc qui venait de là, pendant la colonisation.
Voilà. Alors, aujourd'hui plus qu'hier, la forêt représente un grand atout pour la survie de l'humanité demain. Donc, une plus grande attention va être accordée désormais à cette forêt de la cuvette centrale.
Il y a également la tourbière, là.
Hein? La tourbière qui séquestre aujourd'hui 40
milliards. Personne n'en parle aujourd'hui, mais dans les enjeux futurs.
40 milliards de tonnes de carbone chaque année. C'est un potentiel en termes de comment dirais-je donc, de soutenabilité, comme on le dit aujourd'hui, donc en termes de durabilité. C'est un potentiel énorme. Nous devons faire la politique de notre temps. Avoir à la tête de ces provinces, comme la province de l'Équateur, la province de Maïndombe, la province de la Choapa, Chopo et tout ça, même le Kasaï central là-bas, on doit avoir à la tête de ces provinces des penseurs, des gens qui connaissent, des visionnaires, qui peuvent créer dans une dynamique synergique entre ces différentes provinces, qui peuvent créer un cadre de protection, une zone économique de protection forestière, avec des projets durables qui rendent les populations autonomes, n'est-ce pas, donc par rapport à la forêt, pour la sauver et la sauvegarder. Ça, c'est l'avenir de la RDC. Et ça peut amener à la RDC des ressources que ne peuvent pas lui procurer aujourd'hui ces richesses minières. Il faut qu'au niveau, n'est-ce pas, donc des responsables du pays, on se mette d'accord, qu'on comprenne, n'est-ce pas donc, le côté, l'enjeu stratégique, n'est-ce pas donc, de cette situation. Nous sommes aujourd'hui, vous voyez, les pays du bassin, n'est-ce pas donc, du Congo, se mobilisent. Vous voyez, à Brazzaville, on organise des conférences. Parfois, ça va au Cameroun, ça va au Gabon. Mais le grand bassin se trouve où? Ils se trouvent en RDC. La RDC, c'est quand même à peu près 48% de la forêt tropicale, ici en Afrique. Donc, il faut vraiment que cette forêt, qui représente une richesse, soit articulée dans une dynamique de développement, à travers des leaders éclairés et qui comprennent.
Voilà, on va écouter deux auditeurs rapidement, et puis on reviendra à vous pour la conclusion. On va écouter Simon Siloule. Simon, rapidement.
Oui, merci beaucoup à vous et merci aux auditeurs. Et je profite à dire à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Voilà, bon anniversaire à toi. Alors, placez juste un mot par rapport à cette thématique.
C'est-à-dire que les choses, il ne faut pas les voir de manière partisane. Il faut les voir de manière globale. Les choses ont été faites avec le deuxième mandat, le dernier mandat du FCC au pouvoir. Les choses ont été faites pour qu'on arrive là où on est. Imaginez, ce n'est pas seulement les fois. On a un gouverneur en province, mais celui-ci est le sixième gouverneur qui assume la fonction de gouverneur pendant deux mandats. Six gouverneurs, l'Assemblée provinciale, deux mandats. On a le quatrième président.
Voilà, Simon, on a du mal à vous écouter. Voilà, on peut pas continuer comme ça par respect des auditeurs. Alors, on va prendre Jean. Jean, vous êtes en Bandaka.
Oui, monsieur Radio Okapi, c'est Jean-Paul Bantembe à partir de l'Ebo dans la province du Kassai.
Voilà. Oui, vous avez la parole.
Je n'ai pas mandat, s'il vous plaît.
Voilà, vous êtes au Kassai. Voilà, vous avez la parole.
Au Kassai, précisément, il est beau. Pour que les grands Équateurs puissent connaître un développement harmonieux, il faut que les deux institutions provinciales travaillent ensemble. C'est-à-dire, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial doivent être au service de la province et que le gouvernement central cesse d'instruire les ETD, s'il vous plaît. Ce problème est presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, et que les provinces ne décollent pas à cause de ce conflit entre les deux institutions provinciales, à l'occurrence le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Mmh. Et les instructions qui tombent chaque instant à partir du gouvernement central, c'est ce qui fait à ce que dans les assemblées provinciales et dans les gouvernements provinciaux qu'il n'y ait pas vraiment
une bonne ambiance. Les soucis ne travaillent pas ensemble. Ailleurs, dans notre province, il y a des solutions qui sont trouvées. Où nous avons suivi le conflit qui était au Congo central. Aujourd'hui, ils ont un nouveau gouverneur. À la Tchopa ou encore ailleurs, là où il y avait des conflits, les gouvernements étaient regardants et la solution a été trouvée. Mais pourquoi la situation de Mbandaka perdure?
Oui, la situation de Mbandaka continue à persister. C'est parce que il y a des instructions à partir du gouvernement central et les deux organes ne travaillent pas ensemble.
Donc vous appuyez les notables qui disent qu'il y a complicité quelque part.
Oui, il y a complicité parce que c'est Kinshasa qui instruit cela. À des fois, c'est le gouverneur qui a une autre vision et le président de l'Assemblée provinciale a une autre vision et les deux visions ne peuvent pas marcher. Et surtout, les diverses politiques, c'est ce qui fait à ce que ces grands équateurs...
Au grand dam de la population de l'Équateur, malheureusement. Merci beaucoup, Jean-Paul Sartre, d'avoir appelé Eddie Lebo. Mais c'est vrai, mais quelles sont des solutions à apporter aujourd'hui, Monsieur Albert et Honorable Patrick?
D'abord, la solution, c'est de revenir quand même à la légalité. Il y a des députés qui ont été élus par les populations. Bon, on laisse ces députés faire leur travail. Il y a un bureau qui avait été créé, qui a été démis de façon irrégulière. Qu'on rétablisse ce bureau. Et que l'activité fonctionne, n'est-ce pas, donc de façon normale, n'est-ce pas, donc au sein de la province de l'Équateur. Moi, je voudrais faire une réflexion autour de tout ça. Ici, je voudrais réagir un peu en tant qu'intellectuel, en tant que cadre. Moi, je pense que la constitution de 2006, depuis que nous l'avons, elle pose beaucoup de problèmes. Elle pose énormément de problèmes. Il y a d'abord des dysfonctionnements au niveau des provinces. Et vous savez, quand on sait que ce sont les provinces qui doivent être vraiment, comment dirais-je, donc le moteur donc du développement donc de notre pays demain, laisser donc comment dirais-je donc ces provinces à une espèce de gabegie politique comme ça, n'est-ce pas, donc entre assemblées provinciales et gouvernements provinciaux qui ne s'entendent pas, il faut quand même faire une évaluation de tout cela. Avoir une constitution qui met en place, n'est-ce pas, donc une multiplicité comme ça, donc d'organes et tout ça, donc aussi budgétisés les uns que les autres, cela pose également, n'est-ce pas, donc des problèmes de conscience. Donc quand nous demandons aujourd'hui qu'on respecte le pacte républicain, c'est une nécessité parce que c'est grâce au pacte républicain qu'on peut susciter, n'est-ce pas, donc des débats nationaux, lesquels peuvent permettre, n'est-ce pas, donc dans un esprit républicain de trouver vraiment les solutions idoines aux problèmes qui se posent. Et pour revenir en particulier donc à la province de l'Équateur, ce que nous clamons, c'est vraiment en clair deux choses. Un, que nous participions effectivement, n'est-ce pas, donc à l'action de l'État au niveau central, que nos représentants soient désignés, et que deux, en tout cas, que la légalité revienne au sein de l'Assemblée provinciale pour qu'il y ait un fonctionnement, comment dire, harmonieux et équilibré, n'est-ce pas, donc, des institutions donc, de la province. Voilà tout ce que nous demandons.
Voilà. Est-ce qu'il y a ajouté, honorable Patrick Mayombe?
Rien du tout, si ce n'est demander tout simplement au ministère de l'Intérieur de revoir ce qui s'est passé en Mbandaka, de déconsidérer l'existence d'une Assemblée provinciale dirigée par un bureau d'âge qui n'en est pas un, pour que le président Bouka revienne et avec son comité, avec son bureau, afin qu'il reprenne les choses et puis faire marcher la province.
Voilà, honorable Patrick Mayombe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous disons également merci à Albert Pombito, porte-parole de la notabilité de l'Équateur. Vous nous avez honoré de votre présence, je crois que ce n'est pas la dernière fois. Vous reviendrez même le jour où la solution sera trouvée,
assurément,
pour que nous en parlons dans cette émission. Merci également à Charlie Louyeye et à Jiré Mabondo et qui ont concouru à la production de cette émission. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?